Chers amis, bonjour à tous. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Sophie Berlioz pour la quatrième séance du séminaire consacré cette année à la question des articulations du réel. Sophie est membre du groupe d'études en métaphysique où nous avons déjà eu le plaisir de l'entendre, notamment sur la méréologie des objets sociaux. Si je lui ai demandé de parler aujourd'hui, c'est pour l'excellence de ses travaux académiques qui avaient trouvé leur couronnement en 2015 lors de la soutenance de la thèse brillante qu'elle avait consacrée sous la direction du professeur Frédéric Neff à l'EHESS à la question du réalisme des êtres sociaux collectifs et au mode d'existence des objets sociaux, des institutions et entreprises. Sophie a depuis poursuivi ses activités de recherche dans ce domaine, animant d'ailleurs avec le professeur Neff un séminaire d'anthologie sociale à l'EHESS entre 2016 et 2020. Mais elle n'a pas perdu de vue non plus l'ambition qui a toujours été, je crois, la sienne, de mettre son savoir et ses compétences au service du bien commun. C'est pourquoi elle est actuellement engagée dans des travaux en stratégie sociale et négociation dans les secteurs publics et privés, mène dans ce cadre un projet de recherche en philosophie appliquée portant sur les dilemmes décisionnels et les enjeux éthiques des prises de décision. J'ai souhaité l'entendre tout particulièrement aujourd'hui parce que son objet de recherche entre tout à fait dans les préoccupations qui sont les nôtres, mais aussi parce qu'elle vient tout juste de publier en collaboration avec Frédéric Neff, un ouvrage dont, à mon sens, on va beaucoup entendre parler aux éditions Le bord de l'eau, intitulé La nature du social, de quoi le social est-il fait, dans lequel ils abordent un thème tout à fait important dont Sophie va nous entretenir à l'instant et qui a trait à l'ontologie des êtres sociaux. Sans doute, les sciences sociales sont-elles bien placées et, dira-t-on peut-être, les seules vraiment habilitées à traiter de la nature du social. Mais peut-être est-ce aussi l'occasion, après tout, de montrer que l'ontologie peut avoir de temps à autre une petite utilité et apporter sa pierre à l'édifice de l'élucidation que je crois absolument nécessaire de ce que l'on pourrait appeler l'ameublement ontologique du social. Ainsi, à quoi renvoient au juste ces entités invoquées par les sciences sociales, ces supposés faits, choses, objets, physiques, mentaux, construits, purement fictionnels ou non, processus, groupes, individus, communautés, institutions qui peuplent l'univers social? J'aimerais aussi, en faisant porter notre réflexion aujourd'hui sur ces questions si difficiles, que les sociologues en particulier n'y voient aucune intrusion malheureuse dans leur discipline. À l'instar des réactions que purent être celles d'un Brunswick ou d'un Bouglé aux prétentions supposées d'un Durkheim, je voudrais plutôt vous proposer, chers amis, d'y voir chez moi le signe moins d'une certaine nostalgie que de l'espoir que je formule d'un échange fructueux entre nos disciplines. Celui-là même que j'avais éprouvé alors que je présentais au Centre Pompidou, en sa présence, le livre de ce grand philosophe du langage et de l'esprit qu'est John Searle, qui était aussi incidemment un grand ami de Pierre Bourdieu, et dont je venais de traduire chez Gallimard en 1998 le formidable livre La construction de la réalité sociale, l'espoir d'une époque pas si lointaine où les philosophes, y compris les plus métaphysiciens d'entre eux et les sociologues, pouvaient encore dialoguer sur des objets certes communs, mais dans le respect absolu des méthodes propres à chacune des deux disciplines, ce qui exige bien, qu'on le veuille ou non, aussi une certaine étanchéité entre les champs. Dans la construction de la réalité sociale, justement, donc en 1995 pour le titre anglais, 98 pour la traduction française, John Searle écrivait ceci, je le cite: Telle est pour l'essentiel notre ontologie. Nous vivons dans un monde entièrement constitué de particules physiques, dans des champs de force. Certaines d'entre elles s'organisent en systèmes. Certains de ces systèmes sont des systèmes vivants et certains de ces systèmes vivants ont développé une conscience. Avec la conscience apparaît l'intentionnalité, la capacité qu'a l'organisme de se représenter des objets et des états du monde. La question qui se pose à présent est celle-ci: comment rendre compte, dans cette ontologie, de l'existence des faits sociaux? Depuis lors, de nombreuses recherches en ontologie sociale et sur les êtres sociaux nous ont permis d'approfondir ces questions. Je sais par exemple que Sophie, dans le livre qui vient de paraître, conteste cette prééminence par Searle des faits sur les objets. Dans le diagnostic qu'elle porte avec Frédéric Neff sur la nature du social. C'est donc avec grand plaisir que je lui laisse à présent la parole pour qu'elle nous en dise beaucoup plus sur ce point, mais aussi, à en juger par le résumé très riche qu'elle nous a fourni, sur tant d'autres choses encore.
Merci beaucoup. Je tenais également tout d'abord à vous remercier très sincèrement de votre invitation à intervenir à votre séminaire. Donc, comme vous venez de l'indiquer, je vais traiter aujourd'hui du problème des entités et des espèces sociales en soutenant la thèse de leur réalité et de leur autonomie. Alors, les entités sociales sont l'objet des sciences sociales. Elles comprennent aussi bien des faits sociaux, les faits liés à la crise économique et sanitaire, par exemple, des actions sociales, la dissolution ou l'ouverture d'une séance à l'Assemblée, et des objets sociaux, comme des entreprises, des équipes, un drapeau. Parfois aussi nommés des espèces sociales, social kinds, des types ou des espèces. Il est à noter que le terme de kinds est de plus en plus utilisé dans la littérature en ontologie sociale, proche des types utilisés par Searle ou se substituant à eux. Et c'est là, me semble-t-il, une tentative de naturalisation de ces entités pour les considérer comme des espèces à part entière, au même titre que les espèces naturelles. Alors, kind est ici employé dans une acception minimaliste, comme une collection de phénomènes sociaux définis par une propriété ou une caractéristique sociale. Par exemple, la monnaie, avoir la caractéristique d'être la monnaie, les réfugiés, d'être un réfugié. Mais la tentative de naturalisation est délicate, car les entités sociales, dont les social kinds, ont un statut bien particulier. Ainsi, dans un monde où les êtres humains n'existeraient plus, il serait difficile de soutenir qu'elles continueraient d'exister. Et tout semble en effet distinguer les entités sociales des entités naturelles. Les premières sont hybrides, elles peuvent dépendre d'un support matériel, un substrat, mais aussi et surtout des représentations et croyances des êtres humains. Un morceau de papier devient un moyen de paiement parce que nous le pensons, parce que nous le décidons et plus précisément parce qu'un groupe social donné lui attribue une signification sociale, une valeur d'usage et s'en sert pour faciliter ses échanges. Alors que les secondes, les entités naturelles, seraient-elles indifférentes à nos manières de les percevoir et de les connaître, pour reprendre la terminologie de Jana King? Les objets sociaux n'existeraient pas sans les pratiques, les comportements et les croyances des êtres humains, et en un certain sens, on pourrait dire que sans intentionnalité, il n'y aurait pas d'objets sociaux, ou encore reprendre les termes de Colline, pour lequel, je le cite, ce serait un truisme que d'affirmer que la réalité dans laquelle vivent les êtres humains est fabriquée par ces derniers. Les entités sociales sont duales, elles sont ancrées dans la matière, donc leur support, et leur intentionnalité les rattache à la conscience, et elles présentent en ce sens une articulation originale au sein du réel. Alors, quelques propos liminaires et précisions sur la mixité des entités sociales avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, cette mixité a été mise en avant très tôt par Reynard et Carnap. Donc, Reynard qui, dans les fondements a priori du droit civil, considère les entités juridiques, donc qui sont une sous-classe des objets sociaux, comme des objets idéaux temporels. Des objets, donc selon ces termes, qui sont ni entièrement physiques, ni entièrement psychiques, et qui en même temps se distinguent par leur caractère temporel des objets idéaux intemporels. Il s'agit d'objets qui sont à cheval sur le monde de l'esprit et le monde de la nature, un mixte de physique et mental qui surgit dans le temps. Quant à Carnap, il distingue dans Love Bow, le paragraphe 55, deux types d'objets culturels. D'une part, les documents qui sont reliés à des objets physiques et d'autre part, les manifestations reliées à des objets psychiques. Il distingue deux relations, celle de manifestation et celle de documentation. Donc, la documentation qui, selon lui, consiste en un acte de création ou de transformation de la part d'un ou plusieurs individus. La première, donc la relation de manifestation, lie les objets culturels et les objets psychologiques. Et la seconde, la relation de documentation, lie les objets physiques et les objets culturels. La caractérisation psychologique et intentionnelle des entités sociales les différencie donc des entités naturelles. C'est ce que Francesco Guala nomme la thèse de la différence pour distinguer espèces naturelles et espèces sociales. Une thèse qu'il conteste du reste, mais j'y reviendrai plus loin. Pour les partisans de cette thèse, donc de la thèse de la différence, les espèces sociales, à la différence des espèces naturelles, dépendent existentiellement de nos attitudes propositionnelles et de notre acceptation collective. Ainsi, dire qu'une espèce sociale K dépend de nos états mentaux et de l'acceptation collective, c'est affirmer que l'espèce K est instanciée par l'objet ou le token X si et seulement si X satisfait aux conditions C collectivement acceptées d'être K, donc d'être cette espèce. Cette dépendance des entités sociales aux acceptations collectives est-elle un motif pour les exclure des entités réelles? C'est ce que vise la thèse constructionniste et conventionnaliste que je souhaite réfuter. En effet, cette thèse repose selon moi sur deux erreurs conceptuelles. La première consiste à soutenir que les objets sociaux, en tant que type ou espèce, sont existentiellement dépendants de l'acceptation collective d'un groupe. Je soutiendrai au contraire que les entités sociales ne dépendent pas existentiellement, mais causalement de nos acceptations collectives et que cette dépendance causale est historique. Il faut qu'il y ait eu un premier acte de création ou de manifestation psychique, pardon, pour reprendre la terminologie de Carnap. Et la seconde erreur, étroitement liée à la première, est de considérer que c'est la convention qui constitue et assure la stabilité de l'espèce sociale. Je soutiendrai au contraire que ce qui fait que ces espèces sont réelles n'est pas lié à une acceptation ou à des attitudes collectives, mais à leur pouvoir causal qui produit des structures ou des réseaux de coordination dynamiques qui sous-tendent les actions facilitées par ces espèces, des processus ou des mécanismes sociaux par exemple. Et c'est la charge causale des espèces sociales qui leur donne une place à part entière dans la partition du monde à côté des espèces naturelles. Alors pour cela, je commencerai d'abord par définir les entités sociales et les difficultés métaphysiques posées par ces entités. J'exposerai ensuite les implications de la thèse de la différence, c'est-à-dire la thèse de la dépendance des espèces sociales aux attitudes collectives. Je tenterai ensuite de réfuter la thèse de la différence et de la dépendance existentielle des espèces sociales à l'acceptation collective. Et enfin, je proposerai deux illustrations de la mécanique causale des social kinds avec la thèse de l'émergence et de la causalité descendante des entités sociales telle que nous la proposons avec Frédéric Neff dans La nature du social. Alors, avant d'entamer ma démonstration et la réfutation de la thèse de la différence des espèces sociales, je voudrais revenir brièvement sur certaines caractéristiques des entités sociales, leur invisibilité, leur suirréférentialité, leur irréductibilité au physique et enfin leur dépendance à l'intentionnalité. Et je trouvais qu'il n'y avait pas de meilleure introduction à l'ontologie sociale que ces propos de Searle dans la construction de la réalité sociale. Je le cite. L'une des raisons pour lesquelles nous pouvons supporter le fardeau, donc c'est le fardeau métaphysique, est que la structure complexe de la réalité sociale, si l'on peut dire, ne pèse rien et demeure invisible. L'enfant est élevé dans une culture où il tient simplement la réalité pour acquise. Nous apprenons à percevoir et à utiliser des voitures, des baignoires, des maisons, l'argent, les restaurants et les écoles, sans réfléchir aux caractéristiques spécifiques de leur ontologie et sans avoir conscience qu'ils en ont une. Les espèces sociales sont suirréférentielles. Elles se présentent à nous presque par affordance. Ces entités composent l'arrière-plan au sein duquel nous agissons et interagissons. On ne se pose pas de questions métaphysiques sur notre baignoire, ni pour identifier la consistance des restaurants lorsque nous percevons qu'ils sont faits de chaises, de tables ou de serveurs. On s'assoit, on mange sans se poser de questions, et heureusement d'ailleurs. Bref, la structure complexe de la réalité sociale est invisible parce qu'elle n'est pas perceptible, pardon, à l'œil nu. Pour ça, le social survient sur le physique. Et la tâche de l'ontologie sociale est de mettre au jour la complexité de cette structure invisible, simple en apparence. Cette tâche s'organise plus précisément autour de trois énigmes inhérentes aux entités sociales et liées au fait que ces objets sont à la fois dépendants et irréductibles. Ces trois énigmes sont formulées par Amy Thomason, notamment, et voilà ce qu'elles sont. Comment des objets sociaux dépendants des représentations et des intentions humaines peuvent-ils être indépendants de nos volontés, voire même nous contraindre? Comment des croyances et intentions humaines peuvent-elles créer des événements, des objets et des faits qui soient nouveaux ou dérivés, c'est-à-dire non prévus? Comment, enfin, des entités qui dépendent des intentions peuvent-elles faire l'objet d'un savoir objectif ou de découverte, c'est-à-dire être l'objet des sciences sociales? La première question qui se pose en ontologie sociale pour caractériser ce qu'est un type ou une espèce sociale est celle de savoir jusqu'à quel point les espèces sociales sont dépendantes des attitudes propositionnelles des membres d'un groupe social donné. Il existe deux écoles. Le réalisme, avec le platonisme social ou le physicalisme, pour lequel les entités sociales existent. Pour le platonisme social, par exemple, certains objets abstraits sont instanciés dans diverses constitutions, la concrétude sociale étant le fruit d'une composition d'abstraction. Pour le physicaliste, les entités sociales peuvent être réduites au physique, à la matière ou à des localisations spatio-temporelles. Par exemple, un groupe est ce qui existe de manière plurielle en un lieu ou en un temps. L'antiréalisme, au contraire, parmi lequel on peut compter le constructionnisme, le conventionnalisme ou encore le textualisme, pour l'antiréalisme, les objets n'ont pas d'existence, les objets sociaux n'ont pas d'existence physique, ils sont le fruit de constructions mentales ou linguistiques, ou encore de textes. L'antiréalisme repose sur la thèse de la dépendance des espèces sociales à l'acceptation ou à l'intentionnalité collective, sauf peut-être le textualisme, mais dont je ne parlerai pas explicitement par la suite. C'est la thèse la plus courante en ontologie sociale avec Searle, Thomason, Tuomela, même si de nombreux textes ont été publiés ces dernières années en faveur du réalisme social, dont le bouquin de Frédéric Neff et Pierre Livet, ou encore Francesco Guala, Frank Hendricks, etc. Mais j'y reviendrai par la suite. Pour les partisans En revanche, de la thèse de la dépendance et de la différence, donc du côté de l'antiréalisme, les entités sociales sont ontologiquement subjectives, mais épistémologiquement objectives. Cette thèse, elle est développée et inaugurée par Searle en 1995 dans la construction de la réalité sociale. Searle distingue en effet deux types de subjectivité, l'une ontologique et l'autre épistémique. Pour lui, les faits sociaux sont ontologiquement subjectifs car ils dépendent existentiellement des individus, de leurs croyances, de leurs pensées, de leurs pratiques. Ils ont des caractéristiques qui sont relatives à l'observateur ou à l'utilisateur. Par exemple, c'est un exemple de Searle, une caractéristique intrinsèque d'un objet matériel simple peut être d'avoir une certaine masse, une certaine composition, il peut être fait de bois, de fibres, de cellulose. Et une caractéristique extrinsèque serait que ce même objet soit un tournevis. Alors, la caractéristique sociale de l'objet est relative à une utilisation ou observation. Elle n'est pas intrinsèque à l'objet même. Mais ontologiquement subjective, la réalité sociale et institutionnelle est cependant épistémiquement objective, selon Searle. Par exemple, le fait d'être un tournevis ne dépend pas de l'appréciation de celui qui le pense, mais bien d'un fait autonome. Et ce qui assure cette autonomie, c'est l'intentionnalité collective. Pour Searle, si l'existence de caractéristiques du monde relatives à l'observateur n'ajoute pas de nouveaux objets matériels à la réalité physique, il n'y a pas deux domaines, un physique et un social, mais juste un domaine physique doté d'une partie sociale, il n'empêche qu'elle peut ajouter des caractéristiques épistémiques à la réalité et faire l'objet de connaissance. Cela étant posé, et pour reprendre le point qui nous occupe et évaluer le type de dépendance qui lie une entité sociale, une espèce sociale, à une acceptation collective, examinons de plus près ce qui compose la réalité sociale et la spécificité de ses composants. Pour la thèse conventionnaliste de Searle, les entités sociales présentent une dépendance à une attitude collective. Une dépendance qui, pour lui, n'est pas causale, mais métaphysique ou existentielle. Pour exposer avec précision la nature de la dépendance entre entité sociale et acceptation ou attitude collective, Khalidi propose une distinction utile entre deux types d'attitudes propositionnelles. Les attitudes de type 1, qui sont orientées vers le token, donc ce qui instancie, et il s'agit d'attitudes qui sont dirigées vers les individus qui appartiennent à l'espèce sociale ou à l'entité institutionnelle. Par exemple, si nous croyons collectivement que Didier Deschamps est l'entraîneur de l'équipe de France, alors il est l'entraîneur de cette équipe. Et dans cet exemple, l'attitude de type 1 est dirigée vers l'individu token, c'est-à-dire l'individu qui instancie la propriété d'être un entraîneur de telle sorte que X, donc le token, et K, un membre de l'espèce K, si et seulement si une attitude collective pose que X est K. Les attitudes de type 1 se distinguent des attitudes de type 2 qui ne sont pas orientées vers le token, mais vers le type ou l'espèce en question. Et pour reprendre l'exemple de Didier Deschamps, si nous acceptons de dire ou de croire que Didier Deschamps est l'entraîneur de l'équipe de France, nous devons aussi accepter des conditions qui définissent ce qu'est un entraîneur, ce qu'est une équipe. Et en un sens, les attitudes de type 1 présupposent que nous acceptions au préalable les types ou espèces auxquelles les individus token appartiennent, donc une équipe, être entraîneur, etc. Donc, accepter le type ou l'espèce en général et l'ensemble des conditions qui la caractérisent et fait l'objet d'attitudes et d'acceptations collectives. Donc, c'est là le sens de la deuxième formule. Donc, X, un token, et K, si X satisfait aux conditions collectivement acceptées pour K donc l'espèce, d'être cas. L'acceptation collective, elle porte ici sur un ensemble de conditions, C, et la formule est la même que pour les attitudes de type 1, sauf que dans ce cas précis, les attitudes propositionnelles impliquent un ensemble de conditions C, et en plus, elles portent sur l'espèce K en tant que telle. Et ces deux types d'attitudes, 1 et 2, sont liés, puisque la première formule dépend de la seconde, car implicitement ou explicitement, les membres d'une communauté doivent être en mesure d'appliquer un critère pour décider quel token appartient à tel ou tel type ou espèce. Et si on reprend l'exemple du billet et de la monnaie, qui est également cité par Francesco Guala, on dira que l'on accepte que le morceau de papier soit un moyen de paiement, donc attitude de type 1, si et seulement si on accepte, attitude de type 2, que la propriété de la monnaie soit d'être validée et certifiée par une banque centrale. Donc, cette certification qui représente un ensemble de conditions qui caractérisent la monnaie en tant qu'espèce. De sorte que l'espèce ou le type monnaie est constitué par l'attitude. Et l'attitude est alors dirigée vers l'espèce en spécifiant les conditions pour qu'un token appartienne à l'espèce. Alors, une question se pose à présent, car on pourrait formuler l'objection suivante. Certes, l'existence des types ou espèces est dépendante d'une acceptation, car c'est le propre des entités sociales, dont il est difficile de soutenir qu'elles sont indépendantes des croyances et des subjectivités. Mais en quoi s'agit-il d'une dépendance existentielle? La thèse conventionnaliste de Searle établit que la socialité des faits sociaux ou institutionnels vient de l'assignation de fonctions statut à des faits bruts qui donnent des pouvoirs déontiques, c'est-à-dire des autorisations. Et le social s'articule ainsi au physique en survenant sur le monde physique grâce à des règles constitutives. Donc c'est la fameuse règle X compte pour Y dans le contexte C. C'est la règle constitutive et inaugurale de Searle qui s'est vue ensuite spécifiée dans la littérature, notamment par les travaux d'Amy Thomason qui distingue plus précisément trois règles distinctes mais constitutives des entités sociales. Des règles singulières où l'on accepte que X, donc un objet matériel préexistant, soit S, donc par exemple que cette rivière soit la frontière entre deux territoires. Et alors, cette règle est singulière parce qu'elle ne s'applique qu'à cette rivière en particulier. Elle distingue donc ces règles singulières des règles universelles, qui stipulent que pour tout X, nous acceptions que sous certaines conditions, C, alors S, donc là, c'est l'exemple de la monnaie, enfin, du billet et de la monnaie que je viens d'évoquer. Et enfin, une règle existentielle selon laquelle nous acceptons collectivement qu'une entité nouvelle, X, soit S2X. Donc, cette règle existentielle s'applique pour les objets abstraits comme Microsoft, la bourse ou encore une symphonie. Thomason parle de règles existentielles car elles produisent une existence nouvelle qui ne préexiste pas matériellement. Et ce sont des entités dont l'existence même, à la fois physique et mentale, dépend d'attitudes spécifiques des êtres humains. Mais quelle que soit la règle constitutive dont il s'agit d'entités socialement créées qui sont dépendantes d'une intentionnalité collective. Et pour les partisans du conventionnalisme, qui est une forme faible de constructionnisme, les objets des sciences sociales ont donc un statut bien particulier, car leur existence dépend de nos intentions et de nos acceptations. Et cela implique, d'une certaine manière, que l'on ne peut pas se tromper à leurs propos. Si l'on suit cette thèse, le rôle des sciences sociales, ce serait alors d'organiser et de décrire, ou parfois de créer un corpus de connaissances qui correspondent à notre conception commune de la réalité. Et la distinction entre les sciences de la nature et les sciences sociales serait alors vraiment très nette. Mais, et donc là, c'est un enjeu de taille pour ceux qui nous occupent, à savoir soutenir le réalisme des entités et des espèces sociales. Cette thèse, donc cette thèse conventionnaliste et cette thèse de la différence, ne permet pas de rendre compte des entités sociales qui ne sont pas créées intentionnellement. En effet, des faits sociaux comme les récessions, les mouvements de ségrégation, les inégalités systémiques ne sont pas intentionnellement créés. Prenons simplement l'exemple de la persistance des inégalités entre hommes et femmes dans des structures institutionnelles, malgré la profusion de textes, de lois, l'évolution des réglementations, donc malgré la production d'autant d'outils réglementaires intentionnellement conçus et collectivement acceptés. Il s'agit là d'un troisième type de phénomènes sociaux, non intentionnels, cela, et plus précisément structuraux, en ce qu'ils résultent à un niveau macro, mais de manière discontinue, d'actions intentionnelles au niveau micro. Je pense ici à l'exemple de Thomas Schelling dans La tyrannie des petites décisions, qui montre comment la ségrégation apparaît à la suite de micro-décisions indépendantes de toute intention ou volonté de ségrégation. Il explique en effet comment la ségrégation raciale peut apparaître comme le résultat d'un jeu d'ajustements successifs de deux groupes d'individus dont l'intention est seulement de ne pas se trouver en minorité. Dans une agglomération mixte, il suffit qu'un très petit nombre de ménages d'une communauté se déplacent pour déséquilibrer leur voisinage proche en petites minorités, puis par le jeu de déménagements successifs, déséquilibrer l'ensemble de la communauté. Pour Schelling, c'est l'intention d'individus de ne pas se retrouver en minorité qui conduit à la structuration en bloc communautaire. Ainsi, pour lui, je le cite, les gens ne veulent pas être majoritaires dans un quartier, ils ne sont pas ségrégationnistes. Mais la volonté de ne pas être trop minoritaire produit la ségrégation. Autrement dit, il peut y avoir de la ségrégation sans volonté individuelle de ségrégation. Et cet exemple est intéressant car il montre que des décisions prises par des individus ou des petits groupes peuvent s'agréger et se combiner jusqu'à produire un équilibre qui ne peut plus être modifié de l'intérieur. Et on pense ici au phénomène de l'émergence, mais j'y reviendrai plus loin. Ainsi, aucune attitude ou convention n'est nécessaire pour faire advenir ce troisième type d'entité ou espèce. Des phénomènes comme l'inflation ou le racisme, pour reprendre des exemples cités par Amy Thomason, n'ont pas besoin d'une acceptation collective pour exister. De plus, des individus peuvent ne pas avoir conscience d'être racistes ou même d'être discriminés tout en participant à cette réalité sociale ou structurelle. Pour illustrer ces effets non intentionnels de la combinaison des actions sociales en fonction de leur complexité, bien sûr, j'aimerais aussi citer ces propos de Marc Bloch dans sa correspondance avec Lucien Febvre, qui me semble parfaitement illustrer l'existence d'entités ou d'espèces sociales non intentionnelles. Alors là, il s'agit d'un extrait d'une lettre de Bloch du 17 août 1941, et Bloch et Febvre sont face à un dilemme, qui est de poursuivre ou de ne pas poursuivre les annales sous l'occupation. Poursuivre avec le risque de mettre en péril l'indépendance académique de la revue, et ne pas poursuivre et céder à l'obscurantisme de l'époque. Febvre propose à Bloch un compromis, poursuivre la revue, mais ne plus mentionner le nom de Bloch ni en tant qu'auteur, ni en tant que membre de la direction pour ne pas éveiller de soupçons. Ce contre quoi Bloch s'insurge. Car il s'agit pour lui, alors là j'interprète philosophiquement, de la contribution à autant de micro-actions qui produisent ou alimentent de manière non intentionnelle l'antisémitisme en distinguant et différenciant des individus égaux en droit. Alors, voici ses propos. Le plus grand mal, voyez-vous, c'est l'esprit de distinction. C'est le numérus, simplement le nombre avant d'être clos. Le dénombrement ne précède pas seulement. Il propose presque forcément clôture, tacite ou expresse. J'ai vu cette évolution s'annoncer, lentement, sûrement, dans les années qui ont précédé la guerre. C'était de cette façon surtout que se faisait chez nous l'osmose de l'esprit raciste d'à côté. Et elle était, cette évolution, beaucoup plus dangereuse que l'antisémitisme avoué, stupide, violent, parce qu'elle entamait des milieux où l'on aurait rougi ou ri de s'entendre accuser d'antisémitisme, où l'on se vantait de rester fidèle, en effet, à une déclaration où on croyait l'être, sans se rendre compte combien on s'en écartait. On voit bien ici comment les pires phénomènes sociaux peuvent émerger de manière non intentionnelle, ne pas être créés intentionnellement, mais s'avérer des effets non intentionnels des actions humaines. Il s'agit d'entités dérivées, non intentionnelles, c'est-à-dire d'entités dont l'existence ne dépend pas directement des croyances ou des attitudes propositionnelles d'individus à leur égard. De fait, il peut exister des espèces sociales dont personne n'a conscience. Nous pouvons être en récession sans qu'aucun d'entre nous se le dise ou ne le croie, de sorte que l'acceptation collective n'a pas de pouvoir sur le fait social occurrent, croire que nous ne sommes pas en récession alors que nous le sommes. Et ces faits sociaux non intentionnels ne requièrent pas d'acceptation collective ou de croyance particulière pour exister ou appartenir à une espèce ou à un type connu ou reconnu. Ils existent et ils ont un pouvoir causal. Ils produisent une propriété nouvelle. Alors, que nous apprend ce troisième type d'entité sociale sur la nécessité de recourir à l'acceptation collective pour décrire les entités et les espèces sociales? Ce que montre l'existence de ce troisième type d'entité sociale, c'est que certaines espèces sociales peuvent exister indépendamment des intentionnalités et des attitudes collectives. Alors, deux arguments permettent de soutenir que les espèces collectives ne sont pas dépendantes existentiellement aux attitudes collectives. Tout d'abord, l'argument de l'erreur. L'argument de l'erreur, c'est qu'il faut prendre en compte le fait que l'erreur est possible. On peut tous se tromper sur ce qu'est une espèce sociale ou un type. Et de ce point de vue, il faut appliquer également pour les entités sociales la distinction frégéenne entre sens et dénotation, concept et référence. Il existe des écarts et des décalages entre les ontologies spontanées des individus et l'ontologie réelle des faits. Les ontologies spontanées des individus ne créent pas des ontologies réelles. Et cette erreur ou décalage se manifeste notamment si l'on considère les phénomènes d'hystérèse sociale. Donc, l'hystérèse se définit comme la propriété d'un système qui tend à demeurer dans un certain état alors que la cause extérieure qui a produit le changement d'état a cessé. Dans le contexte social, cet effet retardé vient du décalage entre les représentations des individus et le cours actuel de la structure sociale dans laquelle ils s'inscrivent. C'est l'exemple classique de Don Quichotte, chevalier dans un monde où la chevalerie a disparu et qui, incapable de faire face à l'effondrement de son univers, en vient à chasser les moulins à vent qu'il prend pour des ennemis. Il s'agit là d'une forme extrême d'hystérèse des représentations individuelles et qui n'est pas, dans l'exemple que je viens de donner, proprement sociale. Mais ce décalage se retrouve aussi sous une forme certes beaucoup moins romanesque, mais chez des individus ou des entreprises qui, par exemple, ont du mal à s'adapter à ce qui a cours dans la structure sociale. Par exemple, on se trouve face à un phénomène d'hystérèse sociale quand une banque centrale maintient ses taux élevés pour lutter contre la hausse des prix alors que l'inflation a disparu. Ou encore, si l'on considère la Poste, qui a continué d'investir massivement dans le courrier alors que le mail était déjà en train de se substituer au courrier papier. Et c'est ce phénomène d'hystérèse de l'habitus que Bourdieu étudie dans le domaine des stratégies matrimoniales des paysans du Béarn, donc dans son bouquin « Le bal des célibataires ». Il constate que ces stratégies perdurent comme habitus à une époque, alors même qu'elles ont perdu leur sens et provoquant une crise matrimoniale dans la société paysanne béarnaise. Élise Thérèse se manifeste alors dans le retard lié à l'imprégnation des représentations traditionnelles aux idées communes standardisées, donc les ontologies spontanées de ces individus, et générant chez eux un décalage entre les dispositions acquises et persistantes et les propriétés nouvelles des structures économiques, le départ des femmes vers les villes, par exemple. Les changements dans les structures sociales n'opèrent pas de manière synchronique des changements de comportement des individus. Les effets ne sont pas immédiats, mais différés, décalés. Et ce décalage se situe précisément dans le décalage entre les attitudes propositionnelles des individus et le cours réel des faits. Et il s'ensuit logiquement que la condition C, dont je parlais tout à l'heure, l'objet de l'acceptation collective, n'est pas une condition nécessaire à l'existence d'espèces sociales. Ce que l'on croit ou ce que l'on accepte relativement à une espèce ou à une entité sociale n'est pas constitutif. Alors, qu'en est-il alors de l'utilité de l'acceptation et des attitudes collectives pour comprendre les espèces sociales? C'est le deuxième argument, l'argument de la facilitation, et je m'en remets ici à l'argument de Gwala, selon lequel les attitudes collectives ont un rôle causal de facilitation. Elles ont une fonction de coordination. Donc, la réfutation de la thèse de la différence, selon laquelle ce qui distingue les espèces sociales des espèces naturelles est lié à la dépendance des premières aux acceptations et attitudes collectives, elle est développée par Francesco Gualla, dont je donnais la référence plus haut, pour qui la dépendance des espèces sociales à une acceptation collective n'est ni suffisante ni nécessaire pour qu'elles existent. En fait, c'est juste un moteur de confiance. Et le rôle des attitudes collectives est causal et non pas existentiel. Il facilite ou fait advenir un dispositif de coordination, un réseau de coordination. De fait, l'acceptation d'un ensemble de conditions facilite la formation de croyances consistantes et mutuelles à propos des comportements d'un groupe d'individus et favorise en cela leur coordination. Les attitudes collectives et les conditions que l'on impose aux conditions d'appartenance des membres d'une espèce sont essentiellement des dispositifs de coordination. Alors, en suivant l'exemple formulé par Gwala, il part d'un exemple en posant la question suivante. Pourquoi accepte-t-on d'échanger des billets contre des biens ou l'inverse? Alors, j'accepte un billet de 5 euros comme moyen de paiement car j'ai confiance dans le fait que je pourrai l'utiliser plus tard, pour faire des courses par exemple. Et de la même manière, les personnes qui accepteront mon billet feront de même pour les mêmes raisons. Elles l'accepteront comme moyen de paiement car ils sauront que d'autres l'utiliseront aussi comme tel et ainsi de suite. Et c'est le même processus qui est aujourd'hui à l'œuvre avec les nouvelles monnaies, comme la crypto-monnaie, dont le Bitcoin. Plus le nombre de personnes ayant confiance en ces nouvelles formes d'échange est important, plus le réseau de coordination se dessine et se consolide. Dans le cas de la monnaie classique, le rôle d'une banque centrale est d'assurer une consistance des coordinations et échanges en imposant un monopole sur l'émission de la monnaie fiduciaire. Donc, la banque édite des billets qui seront utilisés par tous, car chacun croit, et ainsi de suite, que ces billets continueront d'exister comme moyen d'échange. De telle sorte que si l'entité X, le billet, remplit les conditions C, avoir été édité par la banque centrale, alors il compte comme de la monnaie. Donc là, c'est la règle conventionnaliste. Mais cette proposition conventionnelle, elle indique seulement qu'être édité par la banque centrale donne suffisamment confiance aux individus en ce qu'un billet continuera de l'être dans le futur. Elle a un pouvoir causal. Et en ce sens, cette acceptation, elle cause des échanges, elle les facilite mais elle ne constitue pas l'espèce sociale monnaie. Il n'y a pas de dépendance existentielle. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, avec l'exemple de la crypto-monnaie, l'argument se voit encore renforcé, car les conditions C, avoir été éditées par la Banque centrale, ne sont pas remplies et n'empêchent pas pour autant ce phénomène d'exister. Le moteur causal est ici la combinaison des usages et des intentions individuelles orientées vers ce que chacun croit que l'autre fera et non pas vers ce que chacun croit de l'espèce sociale. Donc, on retrouve les mêmes effets qu'avec les micro-actions de Schelling que j'ai citées tout à l'heure, où le fait social est causé de manière indirecte par des micro-actions dépourvues de l'intention de créer ce fait social-là. De fait, on voit bien ici que les attitudes ne sont pas dirigées vers l'espèce sociale en tant que telle, mais vers les attitudes des autres individus au sein du groupe. En réalité, la monnaie est constituée par un système d'actions et de croyances sur des actions à l'équilibre et non pas par des conventions arbitraires qui concernent, elles, l'émission des billets. Les espèces sociales présentent d'autres propriétés que celles d'être dépendantes à une acceptation ou attitude collective et ces propriétés ne sont pas impliquées par des attitudes collectives à l'égard de l'espèce en question. On voit bien ici le rôle de facilitation des attitudes, mais on voit bien également qu'elle ne nous indique rien sur les propriétés et les conditions réelles de la monnaie dont l'étude est l'objet des sciences sociales et en particulier de l'économie. Ce rôle de facilitation est important puisqu'il garantit la confiance, mais il n'est qu'un aspect de la monnaie parmi d'autres. Alors, qu'est-ce que ces deux arguments nous disent de la réalité sociale et plus particulièrement de ces mécanismes sociaux qui rendent les structures autonomes, bien souvent indépendamment de nos volontés particulières? Je voudrais à présent développer ou plutôt proposer deux mécanismes sociaux à l'œuvre dans la réalité sociale. L'émergence avec la causalité descendante et les effets de boucle ou de rétroaction. L'émergence, tout d'abord, et c'est ce que nous soutenons avec Frédéric Neff dans La nature du social, est une bonne candidate pour rendre compte de la complexité de la réalité sociale et du troisième type d'entité sociale non intentionnelle, donc notamment l'exemple de Schelling. Les phénomènes émergents ont deux caractéristiques principales. La première, c'est d'avoir une propriété nouvelle qui n'est pas possédée par les parties du tout. Une nouveauté qualitative, comme dans l'exemple de Schelling. La seconde, c'est qu'ils ont une causalité que l'on peut appeler descendante, qui va de ce qui émerge à la base de l'émergence, comme pour l'intuition les propos de Marc Bloch, où l'acte de différenciation peut faire émerger ou participer à l'émergence de l'antisémitisme. Ainsi, on pourrait dire que les structures émergent de la complexité des relations entre individus et que ces structures exercent en retour une pression causale sur les individus. Si une équipe de football émerge d'un ensemble d'individus, cette équipe exercera des effets sur ces individus. Si un orchestre émerge des interactions entre des instrumentistes, il exercera une causalité sur eux. La question la plus délicate pour la théorie sociale et l'ontologie sociale est la nature ou la structure de l'effet retour, de ce processus inverse qui se définit comme une action des émergents vers la base d'émergence pour exercer en retour une modification. En d'autres termes, il s'agit de rendre compte du fait que lorsque les interactions entre les individus atteignent un certain degré de complexité ou un seuil, comme on l'a vu avec l'exemple de Schelling, émerge de cet ensemble d'interactions une régulation stabilisée qui englobe les interactions pour produire une structure dont les individus sont des éléments. Cette structure exerce à son tour une influence causale sur les individus. Et un autre exemple, ce serait celui d'un mouvement de protestation au début non structurées et ensuite caractérisées au fil du temps par des interactions d'organisation ou de collaboration, des interactions qui sont de plus en plus complexes et plus ou moins spontanées. Et à un certain degré de complexité, le mécanisme d'organisation est tel qu'il peut y avoir constitution d'une instance représentative. Et ensuite, cette instance peut exercer une influence causale sur les individus qui sont membres du mouvement. Une instance émerge donc des conflits chaotiques d'individus et à son tour agit sur eux. On trouve aussi sous une autre forme, un autre exemple de processus d'émergence sociale dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber, qui est également analysé par Coleman en termes de niveau micro et de niveau macro. Et la relation de causalité que l'on serait tenté à première vue d'établir n'est pas que c'est l'idéologie religieuse protestante qui cause le comportement économique, mais que si cette idéologie manifeste un certain nombre de valeurs, donc par exemple la modération dans la dépense, des valeurs qui exercent un rôle causal, l'idéologie religieuse protestante exerçant alors un rôle causal indirect, ou disons facilitateur. Et dans ce schéma-là, il y a deux processus d'émergence. D'une part, des interactions entre pratiques religieuses et valeurs éthiques, et d'autre part, du comportement économique au modèle capitaliste. Mais on retrouve aussi cette causalité descendante chez Hacking. Donc, il ne s'agit plus là d'émergence, mais plutôt des social loops, terme que Ian Hacking utilise pour désigner les effets d'interaction des espèces sociales qu'il nomme des espèces sociales ou humaines interactives pour les distinguer des espèces naturelles indifférentes. Les espèces interactives concernent donc l'interaction entre un type ou une catégorie sociale et les membres qui y appartiennent. Ce sont les effets en boucle des genres humains. Donc certes, là, il s'agit d'un autre exemple de causalité descendante, on n'est plus comme dans celui de l'émergence, mais cet exemple, me semble-t-il, présente un argument supplémentaire en faveur du pouvoir causal des entités sociales. Et ces espèces sont interactives car la catégorie et les membres qui y appartiennent interagissent. Elles concernent des individus à haut niveau de réflexivité pour lesquels la manière d'être catégorisée socialement influe à la fois sur la manière dont ils se perçoivent et sur leur comportement. Donc la catégorie, en ce sens, présente un pouvoir causal et a des effets sur les comportements, sans être toutefois, évidemment, totalement maîtresse de sa propre influence sur les individus. Hacking prend à titre d'illustration l'exemple des enfants téléspectateurs. Il s'agit d'enfants qui passent leur temps à regarder la télévision, s'imprègnent l'esprit d'images violentes, se désocialisent. Et Hacking montre que la catégorisation de ce groupe, à partir de traits descriptifs généraux, est dotée d'une efficace, puisqu'elle se répercute sur le comportement même des membres de ce groupe, de ces enfants, voire de leurs parents. Et la forme de l'interaction entre la catégorie enfant téléspectateur et l'enfant téléspectateur, donc l'enfant différencié, est la suivante. Donc le type ou l'enfant téléspectateur interagit avec l'enfant, le token, par l'acte même de sa différenciation comme enfant téléspectateur. La classification par type différencie de fait les individus, donc en l'occurrence dans cet exemple, les enfants téléspectateurs, des autres enfants, et cette classification a des effets dans la mesure où elle engendre non seulement des interactions entre la catégorie et les individus catégorisés, mais aussi entre ces individus et les autres individus. Donc, ces interactions ou effets de boucle peuvent se concrétiser dans le langage lorsque l'enfant est désigné ou décrit comme appartenant à la catégorie, mais aussi dans les institutions lorsque la catégorie fait l'objet de discours politiques, de propositions ou de mesures politiques spécifiques. Et ces interactions peuvent également se manifester quand, par exemple, la catégorie des enfants téléspectateurs est considérée comme une catégorie de consommateurs ou comme une cible pour des projets d'innovation technologique. Donc, l'influence de la catégorie sur la pratique oriente les comportements. Il y a un effet causal descendant et rétroactif. En retour, les comportements et leurs potentielles évolutions agissent sur la catégorie et en font un objet de recherche toujours renouvelé. Ce constat conduit Hacking à formuler l'hypothèse d'un effet de boucle des espèces interactives. La catégorisation ou le type modifie le comportement des individus, ce qui implique en retour une réévaluation de la catégorie. Ces deux exemples de processus ou de mécanismes sociaux attestent de la puissance causale des entités sociales et donc de leur réalité. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que les espèces et les entités sociales méritent toute leur place dans la partition du monde. Elles sont moins différentes des espèces naturelles qu'il n'y paraît de prime abord. Elles ne sont pas existentiellement dépendantes des attitudes collectives, mais causalement dépendantes de ces dernières. Elles ont un pouvoir causal, car elles produisent des structures et des réseaux de coordination qui sont dynamiques et qui sont des émergents. Et ces produits émergents ne sont pas réductibles à leur base et présentent en retour des effets sur leur base, l'un et l'autre s'articulant comme une boucle interactive. Pardon. Les propriétés caractéristiques des espèces et des entités sociales doivent faire l'objet de recherches, de découvertes, de progrès, exactement de la même manière que pour la réalité physique. Et c'est l'objet des sciences sociales que d'étudier à un niveau épistémique et à un niveau ontologique les mécanismes causaux et d'émergence qui font la complexité de la réalité sociale, une réalité structurale au sein de laquelle convention et attitude collective ne sont qu'un rouage facilitateur. Merci de votre attention.